Tous les jours, 16h-19h, le Drive RTL 2 avec Eric Jean-Jean et Mathilde Courgeot.
Voici le titre du jour et nous sommes allés piocher dans la sublime discothèque RTL 2 pour vous parler de Diamonds on the Inside, signé Bernard Peur.
Bernard Peur, comme on l'appelle dans l'open space d'RTL 2. Voilà, c'est un petit secret qui est révélé sur cette antenne.
Bon vieux Bernard.
Et non, c'est
bon
bien.
Bon vieux Bernard, nanar.
Et non, c'est bien Ben Harper. Et son histoire musicale, elle est hyper riche. Elle est chargée de ses ancêtres, juifs européens du côté de sa mère, indiens cherokee du côté de son père. Il a toujours une guitare entre les mains. Il en fabrique aussi, ce qu'il nous racontait pas plus tard qu'il y a 2 semaines à peu près. Hein, c'est ça, dans notre propre studio. Il s'intéresse à la folk, au blues, à la country, au reggae, au rock. Et en 78, il assiste à un concert de Bob Marley. Et pour lui, c'est une révélation et une influence majeure encore aujourd'hui dans sa musique. En 2003, il va proposer son 5e disque avec les musiciens The Innocent Criminals. C'est ses frères d'armes, c'est ses frères d'improvisation, de jam. Entre eux, la musique, elle est quotidienne. Et ce disque sera probablement, jusqu'à aujourd'hui encore, le meilleur de leur production ensemble, chargé de toutes leurs influences musicales et littéraires. Puisque dans la chanson Diamonds on the Inside qu'on va écouter, il cite quand même Shakespeare dans le texte, s'il vous plaît. Eh bien, Diamonds on the Inside sera le disque de platine au Canada, en France et en Australie. Et justement, c'est la chanson qui a donné son nom au disque qu'on a choisi de vous passer. C'est une représentation de la tradition folk qui évoque cette jeune femme riche qui a tout pour être heureuse mais qui ne l'est pas.
Everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on the inside. Fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why the first ask is the last to give every time. What you say change comes as a relief that the giver's name remain unspoken. She is just a generous. Inside, die.
On va parler maintenant de la vente aux enchères qui a eu lieu avec cette mini moto qui a appartenu entre 69 et 71 à un certain John Lennon. Alors la moto, c'est une petite Honda 50 cm cube, voilà, qui s'appelle la Monkey. En gros, si vous avez vu récemment la petite moto de Julien Doré, vous savez, sur laquelle il roule dans tous les films autour de son dernier disque.
Dans et ben voilà, c'est qu'il a réalisé d'ailleurs.
Exactement. Mmh. Bah, c'est à peu près la même chose. Ce qui me fait tomber dans les pommes, c'est le prix à laquelle cette moto s'est vendue.
Oui, sachant qu'en plus, il l'a utilisée pendant 2 ans juste pour se balader dans son petit domaine, enfin grand domaine de Tittenhurst Park. Hein, voilà, il l'a utilisée que là.
Je vais chercher le pas.
Ouais, c'est ça. Moi, quand je me balade dans mon domaine, je vais à pied. Hein.
Elle avait été estimée à 30 000 livres. Elle a été vendue 57 500 livres, soit 65 000 euros au National Motorcycle Museum de Solihull.
Hey, 65 000 euros, vous achetez au moins une grosse BMW, tu vois, qui vaut bien cher, ça vaut 22 000, ou alors la Goldwing, tiens, une Goldwing, moto Goldwing, ça vaut 30 000, donc vous achetez deux Goldwing contre une Mini 50 de... vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais qui a reçu le derrière de John Lennon, tu m'excuses.
Alors je ne reviendrai pas sur cette phrase, non, qui a reçu le derrière de John Lennon. Au menu de cet agenda live du 6 mars 2018, le festival de Meltdown de Robert Smith, hein, c'est avec une programmation exceptionnelle, on y revient tout à l'heure, et on commence par les Arctic Monkeys qui remontent sur scène, bonne nouvelle.
Eh oui, ça fait quelques semaines qu'on attend des nouvelles d'Arctic Monkeys.
J'adore ce petit riff de guitare.
Ah, moi aussi. Enfin, en tout cas, après des teasings sur les réseaux sociaux, c'est hier qu'ils ont annoncé une tournée européenne. Ça se passera au printemps. Berlin, Rome, Milan, Düsseldorf, Copenhague et Paris le 29 mai. Ça sera au Zénith. Il y a une seule date française pour le moment, mais il y a un nouvel album qui arrive, bientôt un single. Donc on peut penser qu'il y aura une tournée des festivals au moins. La billetterie ouvrira le vendredi 9 mars, c'est-à-dire ce vendredi à 10h. Il faudra être rapide hein, pour la date du Zénith.
Ou alors connaître un attaché de presse, on en connaît ou pas.
Oui.
Très bien. Fais-moi son numéro tout à l'heure. Le festival Meltdown. Donc, c'est un festival organisé par le chanteur des Cure, qui s'appelle Robert Smith. C'est une programmation exceptionnelle, encore une fois, cette année. Hein.
Ah oui, en fait, chaque année, depuis 1993, le festival Meltdown, qui se passe au sud de Londres, choisit une célébrité comme programmateur et directeur artistique. Cette année, c'est Robert Smith des Cure. Et avant, il y avait eu Patti Smith, David Bowie, Nick Cave. Et alors, sa programmation, c'est Deftones, les Libertines, Manic Street Preachers,
pardon, c'est le retour.
Mogwai, My Bloody Valentine, Nine Inch Nails, Placebo, entre autres, seront de la partie pour cette 25e édition. Dans le communiqué, Robert Smith a expliqué l'excitation qu'il a ressentie à chaque confirmation d'artiste. L'ouverture de la billetterie, c'est le 13 mars. Et d'autre part, les Cure fêteront les 40 ans de carrière du groupe à Hyde Park cet été.
Ça aussi, ça devrait être sympa, avoir 40 ans de carrière pour Cure. Du bon anniversaire à Mariette, dites donc à Kiki D, que tu adores, Mathilde.
J'adore Kiki D, I've got the music in me. Do you have the music in you?
Yes, we have. Mais aussi et surtout, c'est lui dont on va vous parler aujourd'hui, Dave Gilmour, guitariste de légende, puisque c'est celui de Pink Floyd.
Il fête aujourd'hui ses 72 ans, il est né donc le 6 mars, hein, c'était en 1946, près de Cambridge. Il est poisson, comme vous, qui fêtez votre anniversaire aussi peut-être. David Gilmour, il a rejoint Pink Floyd en 67 et sa carrière solo, il l'a commencé en 78. Et le Rolling Stone magazine l'a classé 14 meilleurs guitaristes de tous les temps, derrière bon, ceux que vous connaissez, hein, Jimi Hendrix, Eric Clapton ou Chuck Berry notamment. Je vous conseille très très fort un documentaire qui s'appelle sur l'histoire de Pink Floyd, sur la création de l'album Wish You Were Here, où il explique justement comment lui était venu ce fameux riff de Wish You Were Here que nous n'avons pas en extrait, mais qui est juste sublime et c'est très émouvant.
Voici le journal de la musique de ce 6 mars. Avec au menu 45 festivals de musique qui s'engagent pour l'égalité homme-femme, à l'ère du streaming, un disque de Bon Jovi, oui monsieur dame, le retour de Bon Jovi, et puis John Williams qui arrête la musique de Star Wars. Bah oui, peut-être un moment du temps quoi.
L'épisode 9 sera sa dernière collaboration avec la franchise. C'est ce qu'il a annoncé à la radio américaine KUSC ce week-end. Alors c'est J.J. Abrams qui réalisera ce prochain épisode. Et ça sera, je cite, « assez pour moi ». Outre tous les Star Wars, il a également réalisé les musiques des Dents de la Mer, de E.T., d'Indiana Jones, d'Harry Potter. Bref, c'est... John Williams.
Mais alors, je me demande combien ça peut rapporter en réalité. On ne sait pas, on n'aura jamais les chiffres en vrai. Hein, mais là, par exemple, cette musique que tu viens de mettre, Thomas, combien ça peut... Voilà, ça... Combien ça peut rapporter?
Je pense qu'il compte plus là.
Non, fait, c'est plus possible.
À un moment donné, tu
on
comptes
va arrêter
plus.
Parce qu'autrement, il va agrandir la salle de bain.
Oui, c'est vrai. Oh ouais. À l'ère du streaming, voici maintenant un disque de Bon Jovi en tête des ventes aux États-Unis.
Et c'est son dernier album, leur dernier album, This House Is Not For Sale, qui est sorti en 2016. C'est le 13e album studio du groupe. Que s'est-il passé pour qu'il se classe à nouveau au top des ventes aux États-Unis? Il a été vendu à 120 000 exemplaires la semaine dernière, en quasi-totalité dans son format CD, ce qui est hyper surprenant. En fait, Bon Jovi, ou plutôt son équipe marketing, a tout simplement proposé aux fans de recevoir le CD par la poste en même temps que les places de concert qu'ils achetaient. Donc, This House Is Not For Sale dépasse la bande originale de Black Panther, réalisée par Kendrick Lamar, on vous en avait déjà parlé, et se place à nouveau numéro 1 des ventes comme l'année dernière. En avril, Bon Jovi va également entrer au Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon du rock et du marketing. Du coup.
Oui, très fort. Et d'ailleurs, en parlant de ça, numéro 1 des ventes de singles et d'albums en France, aujourd'hui, c'est Grand Corps Malade. Aussi étonnant que ça puisse paraître.
Félicitations.
Non, c'est vachement bien, mais c'est étonnant parce que c'est pas le format chanson auquel on est habitué. Donc très bien. Et bravo. 45 festivals pour terminer ce journal de musique qui s'engage pour l'égalité femmes-hommes.
En fait, c'est à l'initiative d'une fondation britannique. Il y a près de 50 événements musicaux qui se sont engagés à élaborer des programmations égalitaires d'ici à 2022. En France, il y a le MIDEM, le grand rendez-vous annuel de l'industrie musicale, et le Worldwide Festival à 7 qui ont pris cet engagement. En fait, la dirigeante de la fondation britannique, elle explique qu'en 2017, seulement 26% de la programmation des festivals britanniques était féminine. Donc ça fait quand même très très peu. Et l'équipe d'infoconcert.com sur lequel j'ai trouvé cette information a fait le compte dans les programmations des festivals français. Il n'y a aucune femme qui figure parmi les 10 artistes les plus programmés de l'été, à l'exception d'une chanteuse, celle du groupe Thérapie Taxi. Et il y a 9 femmes seulement qui figurent dans les 50 premiers artistes les plus programmés dans les festivals. C'est toujours très peu.
Ouais, Thérapie Taxi, d'ailleurs, je vous conseille sur scène. Ils sont bien déjantés, ils sont bien frappés dans les textes, mais c'est plutôt sympa.
Tu veux dire qu'ils sont frappadingues?
Ils sont pire que frappadingues.
Ils sont déglingos.
Fracaglo. Fracago. De 18h30, pétante. Voici l'heure du live. Alors, on va où, Mathilde?
On va à Tignes, on va à la montagne. Cool. Et c'était chouette. C'était en avril 2016. C'était le Live by Tignes, by Francofolie. On était au pied des pistes, sous la neige. C'était magnifique. Il y avait des jours, il y avait beaucoup de neige. Je me souviens d'un jour où vraiment, on s'est beaucoup inquiété. Puisque je n'avais pas les bonnes chaussures, c'était vraiment le problème principal.
C'est-à-dire que des loups boutins de 12 cm pour marcher dans la neige, Mathilde,
c'est bien mon genre. C'est bien mon genre. Et il y avait des jours aussi où il y avait les concerts au pied des pistes, les gens étaient en fin de journée, il y avait un coucher de soleil sur les montagnes, c'était juste sublime. Il y avait Aaron, il y avait Jane et surtout il y avait Louise Attaque qui faisait son grand retour avec l'album L'Anomalie, sorti un mois auparavant, 10 ans après leur dernier disque ensemble. C'était d'ailleurs l'album rock de l'année aux Victoires de la musique.
Ouais, d'ailleurs un album qu'ils avaient annoncé le 4 décembre sur RTL2 dans le Grand Morning à l'époque avec Christophe Nicolas. Ils avaient annoncé que l'album s'appelait Anomalie, que ce serait voilà, un album du grand retour. Ça faisait 10 ans qu'on attendait le grand retour de ce trio nommé Louise Attaque avec Gaëtan Roussel à sa tête. Ils avaient, après s'être séparés, été un peu reformés. 2011, on les a vus sur Taratata, 2013 Alcaline, tout ça, mais rien jusqu'à ce que ça arrive.
Seul ici, pas choisi d'être une anomalie.
Voilà, il y a une série qui passe sur Netflix. On vous parle beaucoup de Netflix, c'est vrai. Pourtant, on n'est pas du tout payé par eux, mais on est tous très clients autour de cette table. Ouais, pour de vrai, ce serait bien. Je veux dire, à 9,90 l'abonnement, ils pourraient quand même nous l'offrir depuis le temps qu'on en parle. Il y a une série géniale qui s'appelle Black Mirror. Alors ça, c'est un peu la série fétiche de Mathilde. Chaque fois qu'elle voit un épisode, il lui faut deux jours pour réfléchir autour de ça.
Ah non, mais il faut s'en remettre. Hein. C'est vraiment...
Pas encore commencé.
C'est
moi.
Excellent. C'est une série qui critique en fait la dépendance qu'on a aujourd'hui par rapport à la nouvelle technologie. Et en fait, chaque épisode, on ne suit pas des personnages, chaque épisode vraiment relate un aspect de la société et c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, Matthew Bellamy, le leader de Muse, regarde cette série aussi et s'en est inspiré pour écrire quelques-uns des nouveaux morceaux. Bref, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une cinquième saison qui a été annoncée là, sur Twitter.
T'étais en train de regarder quoi là justement? Il y a quoi? Il y a un teaser? Parce que Mathilde... Attends, on ne peut pas en parler tout de suite parce qu'il y a une nouvelle info qui vient de tomber là tout de suite.
Je ne sais pas, juste il y a ce teaser là, voilà, ça reviendra, mais on n'a pas de date encore.
Et parce que nous sur RTL2 dans le drive, je veux dire, on fait de l'info en direct, tu vois ce que je veux dire? On est bim.
Toi par contre, c'est Casa des Papel.
Casa des Papel, formidable.
Alors la deuxième partie de la saison 1 arrive le 6 avril.
Très bien, Casa des Papel, c'est magnifique, c'est espagnol. C'est en gros un casse, le plus gros casse de tous les temps, et il s'installe dans la maison où il fabrique les billets.
Allez, au revoir.
Arrête.
J'ai pas le droit d'y spoiler.
Monsieur Spoil.